Ça se corse dans le dossier de William Nylander et des Leafs de Toronto. Si sa situation n'est pas réglée d'ici demain, il n'aura pas le droit de jouer dans la Ligue nationale d'ici la fin de l'année. Donc, il devra attendre jusqu'à la prochaine année. Du magazine athlétique.com, accueillons immédiatement Marc-Antoine Godin. Bonsoir, Marc-Antoine.
Bonsoir, Mario.
Et là, je ne sais pas si Mike Babcock se livre à un exercice public, s'entend que peut-être que ses supérieurs ne sont pas en mesure de régler la situation. Je ne sais pas s'il l'a même contacté personnellement, j'en douterais, mais en tout cas, publiquement, il émet des déclarations susceptibles de se rendre jusqu'à Nylander. Il y a quelques jours, il disait que Nylander va être un Leaf pour la vie. Et là, aujourd'hui, dans un article qu'on a pu voir sur les sites anglophones au cours des dernières heures, il dit, le titre, c'est « He's not begging Nylander », en voulant dire, il ne le supplie pas parce qu'il dit « c'est un privilège de jouer ici ». Quelle est ton évaluation de la situation? Est-ce que ça va se régler, Leafs Nylander?
Ben écoute, moi j'ai l'impression qu'on va avoir un règlement, disons, à minuit moins une. Mais je te le dis, j'espère que c'est ce qui va se passer, mais je le dis sans nécessairement avoir une grande confiance là-dedans, mais c'est juste que c'est ce qui m'apparaît être le mieux pour toutes les parties impliquées. Si je me mets à la place de Mike Babcock, à l'heure actuelle, lui, il regarde son équipe et dit « Bon, ben, ça, on a été en mesure de faire un pas en avant puis de montrer qu'on était une équipe compétitive sans l'avoir dans notre équipe. Donc, on ne dépend pas de William Nylander. »
Il a raison.
Cela étant dit, il a quand même... Il sait que quand Nylander est dans son équipe, il a deux unités d'avantage numérique très puissantes, tandis que là, pour l'instant, il y en a vraiment seulement une seule. Il a 5 joueurs de top 6 et non pas 6. Il pourrait avoir vraiment 2 véritables premiers trios en ayant Nylander sous la main. Ça devient vraiment une question de philosophie, parce que lui, écoute, en tant que coach, il se dit, moi, je veux que mon équipe gagne, je veux qu'elle gagne dès maintenant. Et quand tu regardes cette équipe-là, avec toute la pression qui s'en vient au niveau contractuel dans les prochaines années, est-ce que ça va être la dernière année où tu vas pouvoir avoir tous ces talents-là réunis sous le même toit? La question se pose, mais c'est une équipe qui, de plus en plus, semble prête à gagner. Morgan Riley, en défense, est en train de s'établir à peu près comme un corps arrière. Frédéric Anderson prend de l'aisance, il est de mieux en mieux devant le filet. Puis en attaque, ils sont quand même bien équipés. Alors, je pense que je comprends tout à fait les livres de dire un instant, là, on ne cédera pas devant Nylander parce qu'il n'est pas, on ne dépend pas de lui, puis on veut surtout pas envoyer le signal à Marner et à Matthews, dont les contrats vont venir à échéance durant l'été, que pour nos joueurs vedettes, on est prêts à toutes les bassesses. Alors, c'est un dossier très délicat, mais dans tout ça, je pense quand même que les Leafs l'ont démontré depuis le début de tout ce dossier-là. Il y a des facteurs qui jouent en leur faveur parce que Nylander doit absolument jouer cette année s'il veut avoir droit à l'arbitrage. Après sa 4e saison, s'il ne joue pas cette année, ben, il va reprendre au même point l'été prochain.
Exactement. Donc, il repousse donc son droit à l'arbitrage d'une année. Cependant, quant à l'autonomie complète, lui ne pouvait pas bénéficier de l'autonomie avant l'âge de 27 ans. Ça ne changera rien. Il va être joueur autonome complètement à 27 ans, selon les informations. Ouais. Tu peux me contredire, Marc-Antoine, mais c'est ça qu'on semble, en tout cas, je pense que c'est ça qui s'impose comme vérité. Et Babcock a confirmé avoir parlé à Nylander. Donc, au plan humain, on a tout fait pour qu'il se sente désiré, je pense. Je pense que donc Babcock a fait sa part du travail pendant que Dubas et Shanahan gèrent les chiffres et les mathématiques. Et parlant de mathématiques et du montant, puis c'est ça la nouvelle réalité de la Ligue nationale, c'est que les jeunes en veulent plus, beaucoup plus, plus vite, plus jeunes. Et ça fait dérailler un petit peu la hiérarchie et la structure économique de la Ligue nationale. Parce que là, lui, dans le fond, il sort de son contrat, ce qu'on appelle son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Et vise des montants quand même assez significatifs. J'ai pas les chiffres qu'il demande, mais semble-t-il, et à la lumière des informations qui nous viennent de hauts dirigeants de la Ligue nationale, qu'il demande beaucoup trop pour ce que ces chiffres justifient qu'il puisse obtenir comme contrat.
Ouais, ben écoute, les comparables, à savoir, bon, est-ce que c'est beaucoup trop ou non, on entend, ça avoisinerait au départ, là. Au départ, ce qui était, quand ils sont arrivés à la table de négociation, Nylander voulait utiliser le contrat de Leon Draisaitl, qui lui donne 8,5 millions par saison. Ça, c'était son comparable de départ. Les Leafs, eux autres, voulaient lui donner quelque chose comme 6 millions. Et là, semble-t-il, selon Chris Johnson de Sportsnet, que les demandes auraient baissé autour d'environ 6,9 millions par année dans le cadre d'un contrat de 6 ans. 6,9 millions, ça peut paraître beaucoup, mais il faut que tu regardes il y a quand on parle de comparable, oui, il y a le salaire, mais il y a aussi il faut pas oublier qu'il y a de l'inflation là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque année, le plafond salarial augmente. Et ce qu'il faut que tu regardes, et nécessairement, le salaire des joueurs vedettes va augmenter aussi. Alors, c'est pas autant le salaire, tu dis, ah, ben là, il fait plus que tel gars a signé il y a 2 ans. Il faut que tu regardes quel est le pourcentage que le joueur vedette occupe sur la masse salariale de l'équipe. Et c'est à ce moment-là que tu t'es en mesure d'établir des comparatifs, de dire, ben là, si le plafond salarial monte, les salaires vont monter aussi, mais est-ce que la place ou le pourcentage, la portion qu'on concède à ce joueur-là demeure la même. Alors, Nylander, lui, à ce niveau-là, écoute, il est dans... quand tu regardes sa production de points par match, il est au niveau de gars comme Tarasenko, comme Taylor Hall, comme Philip Forsberg, David Pastrnak. Et ce sont tous des gars qui, grosso modo, là, en argent de cette année, gagneraient entre 7 et 7,3 millions par année. Donc, c'est pas tellement...
Il n'y a pas un si grand écart. Non, c'est ça. Il y a raison, donc, de tenir son bout et les livres devront peut-être plier. Mais en conclusion, Marc-Antoine, parce qu'on verra quel est le dénouement fin de semaine. Mais sais-tu quoi? Je me suis mis une note un matin puis je pensais à cette situation-là. On regarde la situation des Jets également avec autant de jeunes talents. Mais c'est que la bonne nouvelle peut-être pour les équipes qui cherchent du talent, c'est que ces équipes-là qui ont été médiocres tellement longtemps, qui ont magasiné tellement de talent, ne pourront pas tous les garder parce qu'ils n'auront pas les moyens de les payer. Fait qu'ils vont devoir faire comme les Hawks éventuellement, comme après leur première coupe cette année, puis ils en ont gagné 3 quand même.
Ils en ont gagné 3, c'est ça.
Ils ont été bons quand même, mais je sais pas si les Leafs vont gagner, si les Jets vont gagner, mais je sais une chose, ils pourront pas garder toute leur vedette, toute leur jeune vedette, toute la gang, c'est sûr qu'ils vont être obligés d'en laisser partir.
Non, effectivement. Puis je veux juste brièvement revenir sur le point que tu amenais tantôt par rapport au fait que les jeunes vedettes de la Ligue, tu sais, ils ont beau être jeunes, c'est eux les vedettes maintenant. Là, on n'est plus à une époque où ce que tu deviens riche en devenant joueur autonome sans compensation à 27 ans. Tu sais, c'est tes années de 22, 23, 24 ans qui sont les meilleures de la carrière d'un joueur. Puis tu sais, c'est pas pour rien, la majorité des grandes vedettes de la Ligue ont moins de 25 ans. Fait que tous les yeux de la Ligue nationale sont braqués sur la situation de Nylander parce que ça pourrait créer un précédent. Tu regardes tous les joueurs qui vont arriver à la fin de leur premier contrat professionnel là, cet été. Bon, il y a à Toronto, il y a Matthews, il y a Marner, mais tu parlais de Winnipeg, Patrick Laine puis Kyle Connor à Winnipeg. Ailleurs dans la Ligue, Mikko Rantanen, Matthew Tkachuk. Tu sais, c'est toute une génération de jeunes vedettes qui eux autres vont dire, ben là, de quel côté ça va pencher? Est-ce que les Leafs vont réussir à convaincre Nylander de signer pour qu'ils se maintiennent dans les eaux des contrats qu'on voyait de McKinnon, de Barkov ou de Pastrnak, ou bien il va aller de l'autre côté puis il va aller signer dans les eaux de ce qu'a signé Leon Draisaitl à Edmonton. Donc, c'est un contrat qui pourrait vraiment faire jurisprudence puis donner une toute nouvelle réalité au deuxième contrat donné aux vedettes de la Ligue nationale. Donc, ça va être bien intéressant de voir ça au cours des prochains mois.
Merci de ton point de vue, Marc-Antoine. Bonne fin de semaine. On se reparle bientôt, mon cher.
Très bien. Merci beaucoup, Mario.
Merci. Marc-Antoine Godin du magazine athlétique.com. C'est vrai, quand on regarde le classement des marqueurs de la Ligue nationale, il y a de la jeunesse au sommet. Rantanen, McKinnon, Marner, Kucherov, McDavid, Point, Duchesne l'intrus. Lui, ça a l'air que ça ride en Uber. Il est obligé de se regarder dans le miroir comme il faut. C'est plus le même joueur depuis. Comme quoi, des fois, va te faire stouler. C'est pas, hein? On revient avec Ross Amber à Québec. Et on va parler de boxe, bien sûr. Stevenson Gadzik et également Tyson Fury contre Deontay Wilder. Un match de poids lourd, un combat de poids lourd. Alors, l'analyse de Ross dans un instant.